RTL Rencontre.
Bonjour à tous, comme je vous l'avais annoncé précédemment, dès mon arrivée tout à l'heure, je reçois aujourd'hui, comme tous les matins depuis 4 semaines, je reçois aujourd'hui une productrice. Et son association s'appelle Stellaria et j'ai au téléphone Marie-Reine. Bonjour Marie-Reine.
Bonjour.
Alors Marie-Reine, je te présente un petit peu. Tu es productrice de plantes médicinales.
Aromatiques et médicinales, ouais, c'est ça.
Aromatiques et médicinales. Donc je vais faire un peu comme je fais avec tous les producteurs que j'ai reçus jusqu'à maintenant. Hein, on se tutoie, on va discuter un petit peu, on fait un petit peu de la discussion comme ça, de manière sympathique. Et je vais te poser des petites questions comme ça, un petit peu des fois des questions un peu personnelles et puis des fois des questions un peu plus générales. Et finalement, pour terminer, nous parlerons bien sûr de ta participation avec... et de ton travail avec le local paysan. J'ai regardé, je suis allée voir sur Internet, tu es une société ou une association? Ce qui a pour titre Stellaria, c'est une association?
Non, c'est une société, c'est une entreprise individuelle agricole.
D'accord. Tu proposes des plantes médicinales et aromatiques. C'est une entreprise que tu as créée il y a longtemps ou ça...
Alors, c'est assez récent. Ça fait 4 ans, là. Ça commence à faire quand même.
Ouais.
On a passé les débuts un peu difficiles. On va dire que là, je suis déjà un peu plus dans une routine qui tourne, quoi.
C'est-à-dire, vous êtes plusieurs dans cette...
En fait, il y a mon conjoint qui travaille partiellement avec moi.
D'accord, qui t'aide un petit peu quand tu as besoin, s'en fait ressentir.
C'est ça.
Tu es installée à quel endroit déjà? Alors attends, j'ai vu quelque part.
Je suis à Saint-Léger-sous-Beuvray.
Voilà, en plein.
Donc juste à côté de Bibracte, du Mont-Beuvray, ouais.
Plein dans le Mont-Beuvray, t'étais bien placée pour, j'imagine, pour les plantes. Ça fait longtemps que tu es dans la région?
Ça fait 6 ans que je suis dans le Morvan, on va dire, et puis 4 ans que je suis à cet endroit-là précisément.
Mais avant, tu viens de loin.
Moi je suis bourguignonne quand même. J'ai grandi à Auxerre.
Ouais.
Je suis un petit peu du coin, mais après, j'ai beaucoup vadrouillé. Je suis partie un peu dans toute la France, à l'étranger. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin pour revenir là.
D'accord. Les plantes, ça a toujours été ton travail, ton métier, ta passion? Comment on peut présenter ça?
Oui, c'est une longue histoire un peu maintenant. Alors moi, j'ai passé un bac littéraire. Après, je suis allée à la fac, ça n'a pas trop marché. j'ai travaillé beaucoup après avec les enfants dans l'animation.
Ouais, d'accord.
Après, j'ai eu envie de faire autre chose et c'est là que je me suis un peu plus redirigée dans le monde agricole en faisant beaucoup de saisons. Et puis après, je me suis dit que ça me plaisait bien de travailler dehors, de travailler avec les plantes. Donc j'ai voulu réfléchir pour m'installer à mon compte, quoi.
D'accord.
Et puis, je pense que je me suis un peu posé la question de quoi faire, évidemment, parce que le monde agricole, c'est large quand même. Et j'ai toujours eu un intérêt un peu pour les plantes médicinales, parce qu'à la maison, on se soignait beaucoup avec ça. J'ai rencontré des gens qui faisaient ça, je me suis dit, allez, banco, on y va.
D'accord. Et alors, il faut une formation pour les plantes médicinales?
Pas
aromatique, j'imagine, aromatique c'est autre chose, mais au moins les plantes médicinales, est-ce qu'il te faut un bagage spécifique?
En fait, j'ai passé un diplôme agricole, un BPREA, un brevet de responsable d'exploitation agricole.
Ouais.
Et ensuite, j'ai fait une formation, un certificat de spécialisation en plantes aromatiques et médicinales. Mais qui n'est pas une formation, si tu veux, pour soigner les gens, quoi. Moi, je suis pas médecin. Le diplôme d'herboriste, il n'existe plus depuis très longtemps.
Ouais.
Donc, il existe des formations, mais non financées par l'État, qui coûtent très cher pour qui sont plus dans le soin. Mais moi, j'ai pas fait cette formation-là. Donc, j'ai fait une formation vraiment qui m'apprend plus à cultiver ces plantes, à bien les sécher, à bien les transformer, à avoir quand même des bases de médecine simple, quoi.
Ouais.
Je suis pas médecin herboriste, on va dire.
Et il y avait un diplôme d'herboriste, ça existait, ça?
Et ça existait, il n'existe plus depuis la Seconde Guerre mondiale, donc ça fait un sacré moment.
Ah ouais, ça fait un sacré moment, depuis l'apparition des médicaments et du Doliprane.
C'est un peu ça, oui, voilà.
Exactement. Les plantes médicinales, bon, les plantes en général, parce qu'on va prendre en général où tu es installé, comment ça se passe pour les choisir, pour les découvrir, pour les faire pousser peut-être? Est-ce que tu as un espace spécifique où tu vas les faire pousser, ou est-ce que tu te balades dans la forêt et puis tu cueilles au gré du vent? Si je puis dire ainsi.
Il y a un peu les deux. Donc moi, je cultive sur une surface de 3500 m², donc tout à la main en agriculture biologique.
Ouais.
Et alors, on va dire qu'il y a une cinquantaine d'espèces cultivées sur ce petit espace. Et puis après, je vais aller récolter une dizaine d'espèces sauvages, on va dire, parce que je suis dans un coin assez privilégié pour ça, hein, qui est propre, il n'y a pas de grosse route, pas de grosse culture. Donc je vais cueillir du sureau, de la reine des prés, de l'aubépine, des choses un peu comme ça, un peu classiques.
D'accord.
Voilà.
Tout ça, mais t'as des, j'imagine, enfin, comme on dit entre guillemets maintenant, t'as des spots spécifiques,
ouais,
où tu vas trouver,
ouais,
le sureau. Tu sais qu'à cet endroit-là, tu vas trouver du sureau, donc tu connais les endroits, quoi, en fait.
C'est sûr qu'en s'installant, il y a un gros travail de prospection, justement, pour trouver des sites de cueillette qui soient bien propres, qui soient pas aussi en danger, c'est-à-dire que si y a très peu d'espèces sur ce terrain-là, je vais pas aller les cueillir, je vais les laisser tranquilles. Il faut vraiment bien analyser ça aussi. Après, du coup, moi, j'ai quand même la chance de pouvoir quasiment tout cueillir à pied parce que j'ai beaucoup de variétés juste autour de chez moi, quoi.
Oui, mais alors, autour de chez toi, comment ça se passe avec les propriétaires des lieux où tu vas faire les cueillettes? Est-ce qu'il y a un arrangement? Est-ce que...
Ouais.
Ouais. Donc tu les connais?
Oui, c'est en général, on trouve le propriétaire, c'est assez facile à déterminer. Et puis je lui demande une autorisation. Et puis voilà, c'est souvent par oral, hein, ça suffit.
Oui, bien sûr, voilà. Ouais. Ça j'entends bien. Et alors, parce que là-dessus, j'ai pas mal de questions. Tu vas voir, quand tu cueilles tes plantes, j'ai entendu dire qu'il fallait faire attention, parce qu'il y a les animaux qui font leur besoin dessus, tout ça, ce genre de choses. Comment tu sais qu'il n'y a pas un petit renard qui est passé par là, ou un chevreuil qui a fait...
Ouais.
C'est compliqué, ça, non?
En effet, ça peut être un petit risque. Après, ça, c'est la même chose dans mon jardin. Hein. Il peut y avoir des bestioles aussi qui passent.
Oui, c'est vrai.
Alors, il faut bien regarder si les sites sont pas souillés, quoi, si ça n'a pas été piétiné.
Si toutes les plantes sont levées,
on peut pas tout surveiller, tout contrôler, quoi. Mais en général, si le site n'a pas été piétiné, on sait que c'est à peu près, c'est ok.
Mais est-ce que quand même, une fois que tu as cueilli ces plantes, est-ce qu'il y a un travail qui est fait dessus pour que justement il n'y ait pas de microbes ou ce genre? Alors, entre parenthèses, non, parce que on est bien d'accord que les microbes, on va en trouver beaucoup aussi dans les produits chimiques, hein, je dis pas, chacun voit, hein, on est d'accord, mais
oui.
Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que les gens des fois peuvent s'inquiéter, se dire oui, mais attention, est-ce qu'elles sont travailler, ou des petites bêtes qui sont restées dessus, il y a un travail dessus derrière après?
Ouais. Alors ça, moi c'est souvent dans les tisanes, c'est comme ça, c'est la nature, ça peut arriver qu'il y a un petit moucheron qui passe et c'est absolument pas dangereux.
Ouais, c'est vrai.
Pour ce qui est des bactéries, en fait, comme les plantes sont très bien séchées, après je les regarde bien. Je veux dire, je vais pas mettre une feuille où il y a eu un caca d'oiseau dessus. Il y a quand même un petit travail comme ça visuel aussi. Et après, elles sont séchées et stockées correctement pour que ça reste bien sec. Et en fait, la plupart des bactéries plutôt nocives, elles se développent dans des environnements humides. Donc voilà, une fois séchées, il y a très peu de risques de contamination quelconque.
D'accord. Ah, ça, c'est pas mal, oui. Et alors, justement, alors, parce que j'ai d'autres questions, tu dois en ramasser beaucoup. Comment ça se passe pour que ça soit à un moment donné parce que je veux dire, un kilo de feuilles, c'est difficile à ramasser, non
Oui, bah alors, ça peut paraître impressionnant, mais en fait, ça se fait quand même relativement bien. On va dire que c'est vrai que en séchant la plante, on va perdre entre 3 et 6 fois le poids de la plante. Donc c'est sûr qu'il faut quand même cueillir des grosses quantités. Mais moi, je me fais, alors tous les ans avant de démarrer l'année, je me fais ce que j'appelle des prévisionnels de récolte. Donc je sais que telle plante, il faut que je récolte par exemple 10 kilos d'achillée pour que j'ai 3 kilos à la fin. Voilà, je me fais comme ça des petits repères. Mais c'est sûr que ça prend beaucoup beaucoup de temps. Hein. C'est le gros du boulot, c'est les récoltes. Et il y a certaines petites fleurs, par exemple, je cueille des coquelicots. Et ben, ça veut dire que tous les matins, je vais aller à la récolte des coquelicots dans mon jardin pour, au final, 200 grammes plus 200 grammes plus 200 grammes, ça va finir par faire 10 kilos. Mais c'est très long dans la durée, quoi. Ouais.
En plus, quand tu les cueilles, tu dois faire attention de ne pas les abîmer ou ça, c'est égal, en fait. Tu cueilles en tas et puis voilà, c'est fait, quoi. Ensuite, tu mets à sécher, j'imagine.
Oui, ben ça en fait, oui, il faut être quand même assez délicat, mais c'est pas non plus de l'orfèvrerie. Non, mais je cueille dans des sacs en tissu. Et puis tout de suite, je vais mettre ça à sécher directement. Donc en fait, ça n'a pas le temps de s'abîmer, en fait.
Ouais. Alors justement, le séchage, comment ça se passe? Il faut un lieu spécifique. J'ai vu sur internet des sortes d'armoires qu'on met à l'extérieur pour qu'il y ait l'air qui passe, etc. Avec surtout pas de soleil. Est-ce que c'est ce genre de choses qu'il faut pour que le séchage se passe bien pour toutes les plantes? Ou est-ce qu'il y a des spécificités en fonction des plantes?
On va dire qu'il y a certaines plantes qui sont plus difficiles à sécher que d'autres, mais en règle générale, il faut qu'elles soient bien à l'obscurité, que ce soit pas trop chaud et surtout que ça ventile beaucoup. Donc en fait, moi j'ai construit une armoire à séchage où je peux mettre 60 kilos de plantes en tout. Et en fait, il y a des gros ventilateurs qui passent à travers ces plantes-là et un déshumidificateur qui va rattraper toute l'humidité qui va sortir de ces plantes-là. Disons que dans nos régions qui sont quand même assez humides, c'est un peu indispensable d'avoir quelque chose comme ça d'assez puissant qui fonctionne à l'électricité. Ouais. Dans d'autres régions plus ensoleillées, on peut faire des séchages un peu plus à l'air libre, alors pas exposé au soleil quand même, mais on peut faire des choses un peu différemment, comme le thym par exemple, qu'on peut laisser sécher quasiment à l'air libre comme ça, sans problème. La lavande, c'est pareil, dans les régions où ça pousse, ça peut sécher dehors, mais voilà, chez nous c'est quand même mieux d'avoir un matériel adapté.
Oui, bien sûr. Et alors, on va parler pour continuer. Donc, tu produis ces plantes, tu les fais sécher, donc il faut un certain temps, j'imagine. Ça, tu vas vérifier tous les de temps en temps si elles sont suffisamment secs ou il y a un moment minimum, tu sais qu'il faut que ça reste pendant un mois, deux mois à sécher.
Ah non, c'est très court. Le séchage, c'est entre 2 et 5 jours pour les plantes qui sont les plus humides. Ah oui. Oui, c'est le principe du séchage, c'est qu'il faut que ça se fasse quand même assez rapidement pour conserver vraiment toutes les qualités de la plante, donc ses propriétés, ses couleurs, ses odeurs. Voilà, donc c'est vraiment un ratio un peu, faut bien surveiller ça. Et plus ça sèche bien, mieux la plante se conserve aussi. Ça se conserve après 1 an, 2 ans. sans difficulté, quoi. Et donc, pour voir si elle est sèche, on touche avec le doigt, si c'est cassant,
c'est que
c'est OK. Voilà.
D'accord. Le fait que ce soit des plantes médicinales, je veux dire, quand on dit une plante médicinale, c'est une plante normalement qui te soigne ou c'est une plante qui te fait juste du bien. À ce moment-là, ça peut être, toute tisane peut être une plante médicinale, si on peut dire, ou pas?
Oui, en fait, je me dis que même les légumes, en fait, c'est des plantes médicinales parce que ça contient des vitamines et tout ça. Donc les plantes, elles ont forcément toutes leurs petits bienfaits, leurs propriétés. Après, moi, comme je te disais, j'ai pas de diplôme d'herboriste, donc je joue plutôt sur le côté gustatif aussi, que je trouve hyper intéressant, quoi, de retrouver des goûts, de boire des tisanes plutôt que du café, d'essayer de diversifier des choses comme ça. Et en même temps, c'est bon et ça fait du bien au corps parce que c'est plein de molécules actives qui sont bonnes pour le sommeil, pour la digestion, pour les petits maux du quotidien, quoi.
Ouais. D'accord. Donc c'est le terme médicinal, il faut pas le galvauder, si je puis dire. C'est pas pour se soigner, en fait.
Oui et non, c'est un peu l'entre-deux, quoi.
C'est un peu l'entre-deux, d'accord. Ouais, okay. Ouais. Pour en vivre, est-ce que le fait de vendre des tisanes, parce que donc il faut en cueillir beaucoup, c'est beaucoup de travail, il faut les faire sécher, c'est un peu de temps quand même, hein, malgré tout. Et au poids, c'est quelques sachets j'imagine, je sais pas, il faut combien de grammes de plantes pour pouvoir faire une tisane. J'imagine, enfin si, puisque c'est 250 grammes, c'est marqué dessus, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le travail derrière, quand tu vas vendre une tisane, est-ce que c'est suffisant pour... Est-ce que toi, ça te permet de t'en sortir au quotidien?
Alors, c'est assez évident que par rapport à mon temps de travail, c'est quand même très peu rémunérateur.
Voilà.
C'est sûr que c'est un peu compliqué parce que s'il n'y a pas, il n'y a pas tout le monde qui boit des tisanes et c'est pas forcément quelque chose qu'on va boire tous les jours. C'est pas quelque chose de consommation quotidienne, bien que j'essaye de militer un peu pour ça. Disons que je fais un peu pour compléter ça, une petite gamme alimentaire, c'est-à-dire que je fais des sels aromatiques, un peu des aromates, pour que les gens cuisinent aussi avec ces plantes-là. Cette année, je me suis mise aussi à faire de la distillation.
Oui,
pour
vu ça.
Faire des hydrolats, ouais. Donc j'essaye de diversifier la gamme le plus possible, mais c'est sûr que pour le moment j'en vis pas pleinement. C'est sûr, c'est un peu compliqué.
C'est-à-dire que les gens pour se dire qu'une tisane, une plante médicinale, une tisane médicinale fasse vraiment du bien au corps, est-ce qu'on peut se dire qu'il faut en boire très souvent? Parce qu'un one shot, un soir je me fais une plante médicinale, est-ce que ça va vraiment faire l'effet à mon métabolisme, si je puis dire ainsi?
Non, c'est un peu ça la contrainte de la chose. C'est sûr que contrairement à un médicament qu'on va prendre et ça va avoir un effet tout de suite, la tisane, en fait, elle va agir sur le long terme. Donc si on veut vraiment ressentir les bienfaits, normalement il faut se faire une cure d'au moins 21 jours et boire 2 à 3 tasses de tisane par jour. Donc ça, il y a quand même très peu de gens qui sont enclins à faire ça. Après, ça peut être aussi juste la tisane plaisir avant d'aller se coucher ou une fois de temps en temps.
Et est-ce que le fait que les plantes soient séchées, est-ce qu'elles perdent un peu de leur bienfait ou justement
et
c'est mieux?
Non, ce serait plutôt l'inverse en effet, parce qu'en séchant, les cellules vont un peu se casser et libérer des molécules qui seraient moins facilement moins facilement avoir extraire, quoi. Donc non, le séchage, ça endommage pas, si c'est bien séché évidemment, ça n'endommage pas du tout les qualités médicinales de la plante.
D'accord. Et donc je vois effectivement que tu fais alors je sais pas, tu distilles en fait.
De l'hydrolat.
La distillation, je sais plus, j'ai vu la distillerie, De l'hydrolat, qu'est-ce que c'est que ça, l'hydrolat?
Alors Alors de l'hydrolat, en fait, on connaît souvent ça plutôt sous le terme d'eau florale, par exemple l'eau de fleur d'oranger qui est assez consommée. Donc en fait, c'est de la distillation par entraînement à la vapeur d'eau. Donc dans un alambic, on va faire bouillir de l'eau. La vapeur va passer à travers les plantes. Elle va se condenser dans un refroidisseur et on va récupérer un mélange d'huile essentielle et d'hydrolat. Donc après, on va séparer l'huile essentielle de l'hydrolat. Et l'hydrolat, c'est donc on va dire, de l'eau qui est peu concentrée en, très très peu concentrée en huile essentielle, mais qui a plein d'autres essences aromatiques. Donc c'est beaucoup moins fort qu'une huile essentielle qui est très 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 forte, très concentrée. Il faut prendre beaucoup de précautions. L'hydrolat, en fait, ça se consomme beaucoup plus facilement. Ça peut se mettre sur la peau, on peut faire la cuisine avec, on peut faire des cures de santé aussi. Ça peut être mis dans de l'eau chaude, par exemple une cuillère à café dans de l'eau chaude, et c'est plus facile que de faire infuser des plantes en vrac, tout ça. Voilà. On va dire que l'hydrolat, ça a souvent été vu comme un déchet. On gardait que l'huile essentielle et on jetait ça.
Ouais.
Et depuis quelques années, on se rend compte que c'est aussi plein de bienfaits et que c'est moins dangereux qu'une huile essentielle. Donc c'est très intéressant aussi. Voilà.
D'accord. Est-ce que toutes les plantes, quelles qu'elles soient, peuvent apporter leur part de bienfaits à nos corps, si je puis dire,
à notre esprit? Oui, je pense que chaque plante a des molécules et surtout un panel de molécules qui ensemble font que ça peut apporter des choses. Tant qu'elles sont évidemment comestibles et pas toxiques.
Ouais.
Alors,
est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos auditeurs pour toi, ce serait peut-être plutôt ma question, quelles sont pour toi les plantes les plus importantes à laisser pousser? Parce que souvent, c'est des plantes sauvages, les plantes médicinales, il me semble.
C'est-à-dire que c'est un peu... C'est un peu difficile comme question parce que moi, en fait, je cultive beaucoup de plantes médicinales qui poussent pas vraiment dans mon milieu, en tout cas ici, quoi. Je veux dire, je fais pousser du thym, de la lavande, qui n'aurait pas vraiment sa place. Après, c'est sûr qu'ici, il y a beaucoup de plantes sauvages, comme l'aubépine, le bouleau, le frêne, le lierre terrestre, des plantes qu'on remarque plus trop, mais qu'on leurs effets et qui sont très chouettes à consommer. La reine des prés aussi, qui pousse beaucoup par chez nous.
Ouais.
Une très bonne plante anti-douleur pour les articulations, tout ça.
D'accord. Mais voilà. Alors, dans ces cas-là, prenons un exemple, la reine des prés. Toi, tu sais exactement quelle partie de la reine des prés il faut avoir pour pouvoir...
Oui.
Parce que tu ne peux pas prendre tout l'ensemble de la plante.
Non. Alors, c'est-à-dire, par exemple, pour la reine des prés, c'est ce qu'on appelle la sommité fleurie. Donc, c'est quand elle est en fleur, on va dire courant du mois de juillet.
Ouais.
On récolte la fleur. Donc, ça fait une grosse hampe un peu fleurie. Il faut faire attention à ne pas la couper trop bas parce que sinon, on va arriver à la tige creuse qui va un peu se remplir d'eau et qui va finir par faire moisir et tuer la plante. Donc, en effet, il y a des précautions de cueillette.
Sûr.
Voilà, il faut la couper assez haut. Après, il y a quand même pas mal de bouquins aussi qui expliquent tout ça.
Voilà,
si on est vraiment intéressé.
Voilà, donc il faut passer par les bouquins et puis on se renseigne, effectivement.
C'est ça.
Très bien, merci pour toutes ces informations. Donc toi tu travailles avec le local paysan de Luzy. De quelle manière déjà tu as découvert le local paysan?
C'est d'autres producteurs qui m'en ont parlé. Hein. On est quand même un réseau de producteurs,
ouais.
on finit par tous se connaître un peu. Ouais.
Et l'idée de venir déposer tes produits, ça s'est aussitôt décidé dans ton esprit? Tu dis que de toute façon, il fallait le faire. Et puis, pourquoi pas
l'usine ? On m'a plutôt proposé.
Ouais.
Donc j'en étais un peu au début de mon installation. J'avais pas encore démarché beaucoup de magasins. Et du coup, je me intégrer un magasin de producteurs associatifs. Voilà, j'aimais bien l'idée. Donc, je me suis tout de suite lancée dedans. Et puis, comme ils cherchaient aussi des permanenciers donc pour tenir le magasin, j'ai accepté aussi de faire ça. Je trouve ça intéressant de faire des choses avec des gens, avec des collègues, quoi.
Bah oui, d'être à plusieurs, c'est bien de se retrouver.
Ouais.
Merci beaucoup pour toutes ces informations, Marie-Reine, c'est super intéressant.
Et ben merci à toi.
Et puis, je te souhaite une bonne continuation, de belles cueillettes.
Ça marche.
J'imagine qu'il faut qu'il y ait du beau temps aussi, un petit peu de temps en temps pour que
les cueillettes soient. Oui, cette année ça a été le beau temps, ouais, c'était chouette.
D'accord. Oui. Et à très bientôt. Merci beaucoup.
Ça marche, merci beaucoup, au revoir.
FDL. Rencontre.